j'ai commencé à raconter dans des petits cercles familiaux. Le mariage, des trucs comme ça, quand j'avais 15-16 ans. Ça marchait du tonnerre de Dieu. Et je racontais ce que j'entendais dans le bistrot de ma grand-mère, de ma mémé et tout. Ça fonctionnait très bien. Le jour où j'ai décidé d'en faire un métier et que je suis allé raconter ça, c'est-à-dire que j'allais livrer à la vindicte extérieure des histoires qui... Là, ça a été épouvantable. Il dit n'importe quoi. Il ment, il invente. Ben, je dis heureusement que j'invente si j'inventais pas. Et puis parce que j'ai une espèce de prétention à connaître quand même, à avoir beaucoup lu de choses sur l'île, quoi. Et d'avoir écouté. Moi, je viens pas une fois dans l'île sans faire 10-12 heures d'interview.
Lucien Gouron était conteur. Il nous a quittés ce lundi et Radio Balise se joint à la pluie d'hommages qui lui sont rendus depuis l'annonce de sa disparition ici au Pays de l'Orient cette semaine, mais aussi dans toute la galaxie des amoureux de l'art du conte, des lichouseries et du plaisir des mots. Il laisse derrière lui une immense galerie de petites histoires pour parler de la grande, de nos petites histoires, vraies ou fausses d'ailleurs, car il avait l'art, Lucien, de mêler les histoires vraies avec les véritables inventions. Le berceau de son humanité était sur l'île de Groix et nos premières pensées vont donc au Groisillon et puis évidemment à tous ceux qui ont eu le bonheur de le connaître ou tout simplement de savourer l'une de ses truculentes histoires. Groix, le pays de l'Orient et la Bretagne sont en deuil d'un bonhomme que nous avons eu le plaisir de rencontrer sur l'île de Groix cet été dans le studio de Radio Balise. Il préparait un spectacle en partenariat avec le FIFIG, le Festival International du Film Insulaire de Groix, pour fêter la 20e édition du festival. Nous le recevions donc pour parler notamment de la fabrication de ce spectacle qui s'appelait « Île d'elle », dont nous avions pu avoir un aperçu cet été. Nous l'avions reçu aux côtés de Laurent Morisson, qui l'accompagnait musicalement dans ce spectacle, et nous vous proposons donc d'écouter Lucien Gouron, comme si nous pouvions le retenir encore un peu ici à la radio, un beau morceau de radio que Lucien avait bien voulu partager avec nous dans la marmite de Radio Balise. Lucien Gouron, je suis assez ému parce que Lucien Gouron, ma première interview, c'était aux Archives de la Marine à Lorient. J'étais tout jeune, tout étudiant, un peu benêt, je le suis encore, mais et c'était vous le premier à qui j'ai tendu un micro.
Donc à propos de quoi ?
C'était un conte que vous étiez aux Archives de la Marine. C'était avec René Estienne, je crois. Ouais. C'est là où j'ai fait pour la première fois la rencontre de votre Meumé.
Ah ouais, d'accord.
Puisque vous êtes conteur et voilà, il y avait notamment ce personnage assez récurrent dans vos contes, qui est votre Meumé à Marie-Ange, qui tenait le bistrot de l'encre de la marine,
absolument,
je crois.
Absolument. Voilà. Le bistrot était 117 ans dans notre famille et le cousin Jean est mort avec une belle mort après une cuite monumentale, 11 heures le soir, dans son sommeil. Il était comme s'il venait juste de terminer son dernier coup, quoi, à 2h du matin, comme tous les samedis il faisait. Il était à la chaloupe, en train de chanter « Que la montagne est belle » et puis « Le petit papa Noël ». Il est parti se coucher à 11h, à 1h15, il était mort. Les mains sur son ventre, pas une ride, rien. Moi, je voudrais bien mourir comme ça. Enfin, faut que je prenne une cuite quand même monumentale.
Quand même, belle histoire. Voilà. Vous êtes conteur, on dit ça ?
Ouais, on dit ça, ouais. C'est tout ça, mais c'est vrai que c'est l'encre de la marine. J'en parle un peu dans ce soir, puisque je vais raconter l'histoire de Joseph Evenoux, qui était le frère de ma grand-mère dont vous parlez, Mémé Marie-Ange, que j'ai pas connu, mais j'ai été élevé dans le mythe, dans le culte de cet homme-là. Et je suis même allé l'année dernière dans les Pouilles, en Italie, voir où son corps avait été retrouvé lorsque le Léon Gambetta a été torpillé par un sous-marin autrichien le 24 avril 1915. Quoi. Donc voilà, tout ça, c'est une histoire. Alors, Soisy, que la sœur de Jean, a trouvé un siècle et demi de documents, de photos, de témoignages assez extraordinaire, quoi. C'est émouvant. Je peux vous dire où était mon grand-père le 2 août 1914, lorsque la guerre éclate. Il était en plein milieu de la mer de Chine et il est tombé sur le pont de la canonnière où il était et il s'est blessé. C'est quand même incroyable, quoi. Voilà.
On est un petit peu historien quand on est conteur.
On aime l'histoire, mais sauf qu'on se l'accapare et puis on la transforme, quoi. En disant aux gens, tout ce que je vous dis, il n'y a pas un mot de faux, sinon peut-être un ou deux mots, mais pas plus. Parce que on dit, comme tout bon conteur qui se respecte, moi, je mens jamais, sauf quand je ne dis pas la vérité. Mais c'est pas pareil.
On vous reçoit aujourd'hui, puisque au programme du Fifig, à la 20e édition qui reportait l'année prochaine, vous deviez présenter un spectacle qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, L'île d'elle.
Ben, c'est bien que Laurent soit là, parce qu'il va dire un petit mot de notre collaboration. Il était là quand Sylvain, Sarah Fargeau et lui-même, on a dîné un soir chez Sylvain, où ils avaient cette idée pour le 20e anniversaire de faire quelque chose d'assez important, quoi. Il avait ce projet déjà, Sylvain. Et il m'avait proposé il y a genre 2 ou 3 ans, puis d'une façon trop tardive, parce que c'est des choses qui se prévoient longtemps à l'avance. Là, on avait du temps, sauf que ce temps-là nous a été bouffé par ce Covid, parce que le temps a attrapé le Covid lui aussi, donc on a été obligé de se covider. Et donc, on a été obligé d'arrêter. Mais entre-temps, entre le moment où on s'est vu avec Laurent, et puis Sarah et Sylvain chez lui, j'avais commencé à travailler, quoi, à fouiller. Parce qu'il y avait quand même un cahier des charges, ouais, au départ.
Au cœur de ce spectacle, l'idée, c'est de... Donc, l'édition s'appelait Regard Ilienne.
Ouais.
L'idée, c'était d'aller voir plus... Derrière les tonniers, voilà. Derrière les Dundee.
Voilà, derrière
d'aller voir les femmes.
D'avoir les femmes. Parce que, bon... Ouais, parce que les insulaires, les femmes insulaires sont pas toujours mises en valeur, enfin autant qu'elles devraient l'être, parce que elles ont joué un rôle extrêmement important dans ces locaux où on est, que moi j'ai connu l'usine ouverte, hein, quand je suis jeune. Ça a été créé par un grand oncle collatéral à moi, qui s'appelait Gégaud. Les femmes qui ont travaillé là, dont Clémence Tonnerre, qui est née à Kermario le 2 janvier 1900. À la fin de la guerre, elle a travaillé là pendant 4 ans dans cette usine, et elle a été reçue brillamment son certificat d'études à l'école dite de la Trinité, qui est quand même l'école du diable. C'est le seul endroit au monde où l'école laïque est appelée l'école de la Trinité. Voilà, c'est un grand mystère groisillant, ça. C'est 3 en 1, c'est-à-dire comme le lard de nos peupés et nos meumés, 3 en 1, c'est-à-dire le gras, le mec et la couenne. Voilà, beaucoup de gras, 10 cm entre 1 mm de couenne et 1 mm de maigre. Et donc, elle a fait ces études-là, elle a été reçue à ce qu'on appelait le certificat d'études primaires. Puis après, le directeur de l'école de l'époque, en 1914, l'a fait rentrer au collège des jeunes filles de Lorient, qui se trouve à peu près où est aujourd'hui le Grand Théâtre, dans une rue qui s'appelle la rue du Faouédiquin. Et elle va devenir brillante, et elle va écrire des lettres dont j'ai recopié quelques-unes. Quoi.
L'histoire, c'est une correspondance entre Clémence et, ouais, sa maman.
Sa maman. Elle part d'abord en Guadeloupe. Et puis, pourquoi en Guadeloupe ? Parce que, bon, ça, on ne va pas l'expliquer ici, mais parce qu'il y a... Toutes les lettres sont justifiées. Tous les ports où elle va, les endroits où elle va, sont justifiés par quelque chose qui a eu lieu dans l'île, quoi. Pour la Guadeloupe, c'est le mariage d'un artilleur colonial qui s'appelle Elfège Anne-Rose avec une fille qui s'appelle Emma Pecel.
Ça, c'est vrai.
De Croët, ça, c'est vrai. On a la photo. On a la photo, hein. On a la photo. Quand le portail, le 28 janvier 1917, quand le portail de l'église s'ouvre pour laisser apparaître, d'habitude, d'ordinaire, même quand je me suis marié, il y avait beaucoup de monde à venir voir les gens de là. Mais là, on n'avait jamais vu autant de monde dans l'île. Quasiment toute la population de Kervédan jusqu'à Croët, ils sont venus. On allait voir un homme de couleur, un nez, comme on disait dans l'île, un nez. Quand le portail s'ouvre, il y a une foule sur le parvis de l'église pour voir cet homme en costume colonial au bras de cette femme qui a le costume traditionnel et la coiffe. Oh, c'est incroyable, quoi. Et quand la porte s'ouvre, cet officier colonial, Elfège Anne-Rose, il dit à sa jeune épouse Emma, « Oh Emma, tout ce monde-là pour moi. » Ça, c'est vrai, hein. Ça, c'est vrai. Et moi, après, j'ai inventé et je me suis dit qu'elle a dû lui répondre « Non, Elfège, c'est pas pour toi, c'est pour nous. » Ça, c'est moi. Mais ça, avant, c'est sa petite fille qui est mariée avec Raymond Bobinec, qui habite Logmaria maintenant, qui m'a raconté ça. Donc ça, c'est, elle va en Guadeloupe là-dessus. Et donc j'ai dit à Laurent, On m'a dit, est-ce que Laurent peut... Ouais, c'est un truc intéressant. Et là, il me dit, ben, pendant que je lis la lettre, à Pointe-à-Pitre, mois le 12 février 1921, il joue de la musique antillaise dessus, quoi.
Laurent, bonjour.
Salut.
Donc toi, tu es musicien, tu es aussi programmateur pour le FIFIC, donc ça, c'est une année très calme, du coup, pour toi.
Oui, pour le moins. Ouais.
Pour le moins. Tu es musicien, dernier album s'appelle De la Media Luna, j'ai bien dit cette fois. Et tu interviens donc sur ce spectacle, comment se passe cette collaboration et comment on joue de la musique sur Dupont sur...
Alors, moi, j'ai proposé simplement de l'accompagner, parce que j'aime ça, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. On a déjà collaboré quelques fois avec Lucien, mais je l'ai fait avec d'autres gens il y a assez longtemps d'ailleurs. Et moi j'aime bien ça, l'interaction comme ça de la lecture, et puis jouer un peu en sourdine derrière, mais illustré.
Très très à l'écoute.
Ouais, voilà, donc là en l'occurrence, selon la provenance de la correspondance, eh ben, j'illustre, là ça peut être aux Antilles, mais en Amérique du Sud, et puis en Bretagne aussi bien sûr. Et du coup, c'est vraiment intéressant, quoi. Il y a un truc qui s'imbrique, on dira. Enfin, j'aime bien faire ça, voilà. Et puis du coup, bah, ça me fait jouer. Parce que l'été est quand même exceptionnellement beau, calme. Ouais.
Pour revenir à ce spectacle, L'île d'Elle.
Donc, Clémence Tonnerre, qui est née à Camario, que vous connaissez bien maintenant. dont on ne sait pas si elle est morte, parce que sa dernière lettre date effectivement de janvier 1939. Elle a dû mourir, parce qu'elle aurait son 20 ans maintenant. Enfin, on ne sait pas.
Rien n'est sûr.
Elle est passionnée par l'Asie, parce qu'il y a beaucoup de marins qui vont faire leur service militaire, ce qu'on appelle l'escadre d'Extrême-Orient. C'est le cas de mon grand-père Benoît. C'est le cas du grand-père de Claude Stéphan, dont le Yann Stéphan a été...
A eu une histoire avec le FIFIC aussi.
Voilà. Bon, son arrière-grand-père a été au Tonkin aussi, quoi, lors de la pacification du Tonkin. Et elle est fascinée par cet Extrême-Orient, là. Donc, on aura la justification par rapport à ça, quoi. Et puis, on aura une île de Méditerranée, enfin, un lieu de Méditerranée qu'on n'a pas encore choisi, où il y aura une musique, voilà, de ces pays-là. Il y aura 5 lettres qui seront entrecoupées par des... parce qu'elle va découvrir à Istanbul un spectacle circassien, parce que vous savez ce que c'est les circassiens, ces artistes de cirque qui viennent du Caucase, ont commencé à s'installer sur le bassin méditerranéen, et les premiers grands spectacles de cirque ont eu lieu à Istanbul au début du XXe siècle en public. Donc elle a assisté en 1922... Un spectacle de cirque.
Finalement, elle visite le monde et elle en fait part à sa maman.
À sa mère, voilà. Elle fait part à sa maman. Je peux voir un tout petit bout
d'elle. Attirée par la culture.
Ah ouais, c'est ça. Partout, quoi, c'est ça. C'est parce que c'est aussi, en même temps, moi je dis toujours, puisqu'on est à Groix, moi je suis né là, dans cette île, j'ai eu la chance. On ne choisit pas son lieu de naissance, hein, c'est un hasard. On ne choisit pas l'heure de sa mort, mais on ne choisit pas l'endroit où on est né non plus. Moi, c'est l'île, ça m'a toujours... Alors, je dis ça, on a dit les îles d'ailes, les îles ont des ailes, etc. Ça m'a toujours donné envie de partir. Et une fois que je suis parti, ça me donne toujours envie de revenir, quoi. Mmh. C'est vraiment la notion du voyage. C'est dans la conférence des oiseaux du poète persan Farid El Attar au XIIIe siècle, qui dit « Le vrai voyageur n'est pas celui qui dit d'où il vient, mais où il va. » Je trouve ça extraordinaire. Vous arrivez chez des gens... je sais pas, moi, en plein Caucase, et ils vous demandent pas d'où vous venez, ils disent où vous allez, manger où vous allez. Moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et donc, c'est ça la thématique que Sylvain, Laurent et Sarah avaient imaginée. Et moi, ça me fait fantasmer, quoi. C'est tout mon univers. Juste une anecdote. Ma grand-mère Lisa, qui habitait là où il y a maintenant la librairie de Patsakas, hein. Ouais. Voilà. Où elle a livré de Patsakas. Ma grand-mère Lisa, ma grand-mère paternelle, elle avait donc 5 garçons et une fille. Et la fille était mariée avec un officier de la marine marchande, et tous les autres garçons étaient dans la marine marchande, aux chargeurs réunis, aux messageries. Et dans mon enfance, quand j'ai 5-6 ans, sur le mur de la salle à manger, il y avait un planisphère, un énorme planisphère. Et quand elle recevait une carte de mon père... de Saïgon, une carte de son fils Yvon. Elle mettait une petite couleur de drapeau. Ouais. Et quand je regardais ça, il y avait des voyages comme ça, parce que le vert, c'était mon père, et je voyais où il avait été, où il allait venir. Et il y avait toutes les cartes postales qui étaient épinglées dessous, quoi. Et donc, c'était vraiment cette notion extraordinaire de ces gens de Groix qui n'étaient pas du tout enfermés, par exemple, pour citer, puisque mon épouse est née à Watt, de cette population très, très ancrée sur l'île, ouais. Marin-pêcheur, qui partait le matin, rentrait le soir. Quoi.
Mais avec un mystère, quand même, du parent qui est à l'autre bout du monde, et qui, ouais, dont on a
absolument
une carte postale,
absolument,
un élément sans,
ouais,
y avoir été.
Ma grand-mère avait une carte postale comme ça, écrite par trois de ses fils, qui s'étaient rencontrés dans un bistrot au bas de la rue Katina à Saïgon. J'ai été voir le bistrot après, parce que j'ai passé mon temps à aller dans le monde. Je disais, j'ai été 6 fois à la Nouvelle-Orléans, hein, parce que d'abord c'est fascinant, quoi, mais c'est parce que j'ai des cartes postales de mon oncle Loïc qui écrit à sa mère de Buenos Aires, quoi. Et donc j'ai été à cause de ça. J'ai expliqué à Laurent, j'ai assisté au carnaval de la Nouvelle-Orléans. Quand vous avez assisté à ça, on meurt, quoi. Il y a 1 million de personnes, ouais, dans les rues le Mardi Gras, là. Ouais. C'est fou. Il y a 300-400 orchestres de jazz.
Ouais,
ah, il y a dans tout, partout, on trouve de tous les types de jazz. Il y a ce lieu qui existe depuis 1922, qui s'appelle Preservation Hall, où ils jouent sur de la terre battue avec des fanaux. Et quand on leur demande pourquoi vous faites ça, alors qu'à côté, il y a du truc sonorisé, électrifié, ils disent parce qu'il faut qu'on sache d'où c'est parti, tout ça.
Laurent, ça vous dit pas un voyage à Nouvelle-Orléans avec
Christian? Il y a un endroit où je rêve d'aller aux États-Unis, c'est la Nouvelle-Orléans.
Ah bah oui, j'imagine bien. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait de cette correspondance?
Ouais, alors c'est la lettre justement qu'elle a écrite le 2 mai 1923 de la Nouvelle-Orléans, quoi. Voilà, chère mère, j'avais follement envie de découvrir cette ville depuis ce 12 février 1918, où dans le train de Lorient à Nantes, alors que j'accompagnais à ta demande mon petit frère Louis qui embarquait comme novice sur une goélette au cabotage, j'avais voyagé avec les Harlem Hall Flieger, l'orchestre des musiciens noirs du 362e régiment d'infanterie des États-Unis, sous la houlette de leur chef James Europe, un jazzman déjà très réputé. Il avait donné un concert sur la place du théâtre Gralin où ils avaient interprété une Marseillaise dans un style swingé absolument renversant. Et ça, c'est vrai. Non, c'est vrai, hein. Clémence Tonnerre y était. Elle y était, Clémence Tonnerre. Ça, c'est vrai, donc voilà.
Léo, on va faire une petite pause musicale avant de retrouver nos... Oui.
Eh ben ouais, on va partir... du coup, tu parlais du Preservation Hall Jazz Band. Moi, je l'écoutais tout à l'heure en venant ici.
C'est incroyable.
Vélo, et du coup, Preservation Hall Jazz Band.
Oh, punaise.
Radio Balise dans Show Balise, nous sommes toujours avec Lucien Gouron et Laurent Morisson. Alors on parlait de ce spectacle qui s'appelle donc L'île d'Elle. Christian, je vous sens intimidé, je vous entends pas beaucoup.
Ben non, c'est vrai que
avec un monstre sacré comme ça en face de moi, de l'île de Groix, moi étant de Groix, on se connaît pas. Et moi, ouais, effectivement, je suis ému.
Toi, tu connais Lucien à travers ses comptes aussi?
Alors moi, Lucien, je connais depuis que je suis. Enfin, je connais. Oui, depuis. Enfin, je connais pas vraiment, mais depuis tout petit, sa voix, oui, j'entends. C'est quelqu'un qui était pour moi. Inaccessible et qu'il est en face de moi, c'est formidable. Et ouais, c'est super. J'ai participé d'ailleurs aux écoles, dans les écoles, j'étais venu écrire des choses, mais quand j'étais minot, quoi. Donc,
quand on a fait il y a 17 ans, là, les comptes avant.
Ouais, c'était avant encore. Oh là, oui, non, mais je suis désolé.
Des fois, je me dis que c'est dur de vivre longtemps, puis c'est bien aussi en même temps.
Vous avez cette. Il y a... Faut jouer aussi ce rôle de figure de l'île, de personne qu'on vient consulter quand on veut une histoire.
Oui, sans doute. Maintenant, bon, si on voulait dire un mot, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui. Pierre-Jacques Elias, que j'ai bien connu, l'auteur du Cheval d'Orgueil, oui. Lui aussi, il avait un rapport difficile avec le pays Bigoudin. Jean-Pierre Chabrol avait un rapport difficile avec ses Cévennes. Lucien Gourand eut un rapport difficile avec l'île de Groix. Voilà, d'abord parce que, comme disait mon pépé, quand je racontais mes histoires, il me disait « Je suis fauché avec la moitié de l'île, t'étonne pas que celle-là, t'aimes pas hein. !» Donc voilà, donc c'est ça paraît normal. J'ai commencé à raconter dans des petits cercles familiaux, de mariage et trucs comme ça, quand j'avais 15-16 ans. Ça marchait du tonnerre de Dieu, personne ne se posait la question. Et je racontais ce que j'entendais dans le bistrot de ma grand-mère, de ma mémé et tout. Ça fonctionnait très bien. Le jour où j'ai décidé d'en faire un métier et que je suis allé raconter ça, c'est-à-dire que j'allais livrer à la vindicte extérieure des histoires qui... Là, ça a été épouvantable. Il dit n'importe quoi, il ment, il invente. Ben, je dis heureusement que j'invente si j'inventais pas. Puis aujourd'hui...
Je vais quand même pas leur dire la vérité.
Ben non. Aujourd'hui, parce que le temps a passé, parce que beaucoup de gens sont morts, et puis parce que j'ai une espèce de prétention à connaître quand même, à avoir beaucoup lu de choses sur l'île, quoi, et d'avoir écouté... Moi, je viens pas une fois dans l'île sans faire 10-12 heures d'interview. La dernière fois que je suis venu au mois de juin, j'ai interviewé pour la quatrième fois Linette Godard, qui a quand même 93 ans et qui a une mémoire extraordinaire et que je vais retourner. J'ai enregistré Jeanne Tonnerre, j'ai enregistré Hélène Maubé, j'ai des centaines d'heures d'interviews. J'ai une interview de mon grand-père, je vous la prêterai un jour, je la donnerai pas. À personne d'autre qu'à vous, tiens. J'ai une interview de mon grand-père en 1976, parfaite, 2 heures, où il raconte sa vie, il raconte des souvenirs de la guerre 40, des souvenirs de 14-18, comment il s'est marié, qui sont absolument prodigieuses, quoi. J'arrive même pas à exploiter tout ça.
Moi j'ai une question, c'est quand tu vas voir les gens, quand tu veux les interviewer, tu ouvres ton micro, tu leur parles et tu laisses... Parler, t'interviens.
Ouais, j'ai un petit dictaphone Yamaha là, en stéréo. Je le pose sur la table. Et au début, les gens sont un peu rétifs, quoi, tu vois, un peu. Et puis très vite, ils oublient parce que je cerne des trucs, quoi, tu vois. Par exemple, je voudrais reconstituer l'histoire de la marine, du restaurant, enfin l'hôtel de la marine. Okay, Donc j'ai interrogé plein de gens, Catherine Le Goff parce que son père y a été, j'ai retrouvé des vieux menus, je connais à peu près toute l'histoire maintenant de la marine. Je connais une foule de petites, j'allais dire, des tranches de vie de Groix, quoi. Alors maintenant, quelqu'un me demande pourquoi on les assemble pas, tout ça, parce que c'est un putain de travail. Il y a toute une histoire, une partie de l'histoire de l'île qui est complètement occultée, qui est l'histoire sociale de l'île. Bon,
qui est édulcoré par toute cette histoire de pêche.
Ouais, coup, c'est ça. On a glorifié un passé, quoi. Ouais. Qui sait, et j'en parle dans une des lettres, celle de 1925, je crois. Qui sait qu'au mois de juin de l'année 1925, alors que Firmin Tristan vient d'être élu maire après 3 tentatives où il a échoué à virer Émile Billon, qui est radical socialiste. Qui dit aux familles des argentés, vous n'avez pas de sous, mettez vos enfants à l'école du diable, à l'école laïque. Il a réussi à l'avoir. La même année où il est élu au mois de mai, 600 matelots de Groix, écoutez bien ce que je dis, hein, il y a des grands articles dans le Nouvelle Liste du Morbihan, 600 matelots de Groix, la plupart de Piouizi, de l'autre côté, pas de Primiture, parce que ils sont plus huppés, c'est plus rupins, ils sont plus riches, tu vois. D'ailleurs, je vous raconterai une anecdote tout à l'heure par rapport au Navarin qui n'a pas été créé en Grèce, mais à l'île de Groix, à une époque où Piwizi voulait avoir son indépendance par rapport à Primiture, en 1823. Alors, c'était,
pour les auditeurs,
j'ai la date.
Pour les auditeurs, Piwizi et Primiture sont les deux côtés de l'île.
Voilà, exactement.
Si jamais on devait faire République Dominicaine, Haïti,
absolument,
exactement, ou Chypre,
c'est exactement là. C'est exactement là. Eh bien, 600 matelots de l'île se mettent en grève pour réclamer que la répartition des parts des bateaux, c'est 5 parts pour l'armement, et après une part et demie pour le patron, 4 parts pour les matelots et une demi-part pour le mousse. Et eux, ils disent, ça suffit, l'armement c'est trop, il faut ramener l'armement à 4 parts pour qu'on puisse nous avoir plus d'argent. Personne n'a jamais dit. Et, là, et ils n'ont pas réussi à obtenir satisfaction. Pourquoi ? Parce que les conserveurs, dont le Gégo qui est ici, Firmin Tristan qui va racheter l'usine de Portudy en bas, tous ces gens qui sont conserveurs sont aussi armateurs de bateaux. Qui c'est qui a dit par rapport aux matelots de Piwizi, justement, qui sont des grands marins plus que les gars de l'autre côté, qui sont capitaines, etc. Personne ne raconte que l'île a quand même été mise sous... je dirais pas, parce qu'on parle aujourd'hui de, que Poutine aurait empoisonné son principal opposant. Je sais pas si ça se faisait à gros, mais il y avait des gens qui devaient avoir des tentatives, parce que les grandes familles, Gégo, Davigo, Romieux, Tristan, Noël, ils avaient mis complètement l'île sous leur tutelle économique. Mmh. On pouvait rien faire, on va dire. Mmh. Alors, avec l'aide des curés, du clergé, qui interdit aux filles d'aller danser le tango, qui leur interdit de quitter l'île sans l'autorisation de leurs parents si elles n'ont pas 25 ans. Ça, il faut le dire quand même, quoi. C'était pas un Éden, c'était pas un paradis quand même, quoi. C'était dur à vivre. Et les femmes ont été, contrairement à ce qu'on pense, les résistantes. Elles sont venues travailler, elles ont bossé. Il y avait plus de mecs dans les usines. Les ouvriers boîtiers sont partis sur le front, voilà. Et elles ont bossé deux fois plus quand même, les femmes de l'île à cette époque-là. Mmh. Elles ont joué aussi un rôle comme les femmes qui sont devenues conductrices de tramway à Lorient, etc.
On a une petite archive, nous, justement, puisqu'on a mis la main sur la radio des îles, qui était une radio qui s'est créée au moment du Fifig. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui s'appelle Gaston Baron, que vous connaissez peut-être.
Très bien, très bien.
Et qui nous raconte, justement, parce que c'était début des années 2000, il faisait partie vraiment des anciens. Je crois qu'il a quitté l'île aujourd'hui, mais ouais. On l'écoute.
Je suis probablement un des derniers qui reste à avoir fait le chalut à la voile. Il n'y a pas eu après, nous, je crois. J'ai navigué pendant la guerre. Interdiction d'avoir un feu. Les Allemands nous empêchaient d'avoir un feu. Pas de feu à terre, c'est-à-dire les forts étaient tout éteints. Et interdiction de mettre un feu sur le mât du bateau, on avait droit juste d'une petite lampe pour éclairer le compas. C'est tout ce qu'on avait droit comme lumière, même pas à l'intérieur du bateau. Un coup, les Allemands sont venus à bord la nuit. Ils avaient dû avoir probablement un matelot qui avait allumé une cigarette. On tombait, ça va tout de suite. On envoie un grand bateau qui vient à côté de nous, puis il met un zodiac à l'eau. Ils arrivent là et tout le monde aligné sur le pont, garde à bout à moitié nu. Ils avaient passé, je ne sais pas combien de temps, à fouiller le bateau. Ils n'avaient rien trouvé, sauf du poisson. Ils avaient pris deux paniers de sol. Oui, on voulait leur donner des merluchons et puis des petits trucs comme ça. Ils t'ont mis en bas de la cale, ils disent ça.
C'était donc Gaston Baron.
Il faut me taire, mes légumes, couper le temps, les préparer, faire à manger. Et puis quand j'étais prêt, j'étais passé pour porter la marmite. J'appelais un matelot, c'est cuit, viens chercher la tambouille. Parce qu'il fallait monter l'échelle avec la marmite. C'était assez dangereux parce que j'ai eu un mousse qui était en mer avec moi. Et puis il avait voulu monter la gamelle de soupe, c'est une gamelle en ferraille comme ça, avec deux poignées de chaque côté, et puis chavire la gamelle dans ses bottes, de soupe brûlante. Il avait des cuissards, là, quoi, avec ça. On l'a entendu crier, on était en train de tirer du temps. Il faisait beau pourtant. Et puis, le temps d'arriver, de le monter sur le pont. Quand on a enlevé les bottes, on a enlevé les chaussettes, la peau, ses deux pieds, est venue avec. Ces deux pieds sont bien nus. Et on a mis 8 jours pour venir à terre. Il faisait calme, il n'y avait pas de vent. Je n'avais qu'une boîte de tulle gras, un tube de pommade quelconque là. Et alors, je ne pouvais pas faire autrement que de faire les pansements comme j'ai laissé deux jours. Quand j'allais dans le pays, il hurlait, tout l'équipage partait se cacher. J'avais été obligé de me débrouiller seul avec lui.
Le témoignage de Gaston Baron. On a pu entendre hier Joe Bidoc, qui faisait partie de la même génération, et qui lui nous racontait son expérience de mousse à 12 ans embarqué sur les tonniers. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une histoire très édulcorée autour du marin, il y a la chanson de marin, etc. Il y a toute cette imagerie. Mais c'est quand même des bonhommes qui, à 12 ans, sont dans des parties de pêche, qui, là, on entend, il y a des drames à bord, c'est un endroit...
Joe Bidoc, c'était le plus grand danseur de tango qu'il y a eu à Grenoble. C'est vrai, hein. Et ce qu'il raconte Gaston Baron, quand il dit « j'étais le dernier à faire la pêche
chalut à voile »,
parce que c'était fini quand en 40, quand ils font ça. C'est parce que les gens à Groix commencent à avoir faim et qu'ils ont fait quelques tentatives de retourner à faire du chalut à perche. À partir, je ne sais pas si c'est en 40, 41, 42 peut-être. Il n'y a pas eu beaucoup de tentatives, hein, parce que ça n'a pas été facile, mais je l'ai bien connu et je sais qu'il dit la vérité, parce qu'il y a eu quelques dindés de Groix qui ont pratiqué la pêche au chalut à perche pendant la guerre, quoi. Non, mais c'est intéressant aussi, hein, d'avoir ça.
Voilà. On vous les donnera.
Oh la vache.
En tout cas, voilà, c'est des archives qui avaient été collectées en 2000 par la Radio des Îles, qui avait été une expérience de radio temporaire sur la Radio Groix à l'occasion du FIFIG. Léo, on refait une pause musicale. On va vous quitter.
Que c'était agréable de travailler avec Laurent, parce que bon, j'ai eu beaucoup de musiciens dans ma carrière, hein. Mais lui, on n'avait jamais travaillé ensemble, et puis bon, moi j'avais vu, j'avais beaucoup aimé ce qu'avait fait avec Sylvain autour du film et tout, je trouvais ça vraiment, il y avait une couleur dans la musique qui était vraiment une vraie culture de musique voyageuse, quoi. Ouais. Sa musique, elle est vraiment voyageuse.
On va dire, t'es sur une musique qui s'inspire beaucoup du flamenco, mais aussi des nomades européens.
Voilà. D'ailleurs, cette définition musique voyageuse, c'est ce que je donne maintenant.
Voilà.
Quand on me demande ce que je fais comme style de musique, c'est ce que je dis. Donc, après avoir cherché les influences aussi, je fais de la musique voyageuse. Donc il y a un peu de flamenco, mais il y a un peu d'Amérique du Sud, ouais. Un peu des Balkans, un peu d'oriental, enfin voilà.
On sent les nomades, en tout cas.
Ouais, c'est ça, c'est une musique nomade.
C'est agréable de lire les lettres et d'avoir ça derrière, la scène musique, c'est ça vraiment... C'est vibrant, quoi. C'est-à-dire, je vais prendre un plaisir extraordinaire à savourer les mots que j'ai écrits et qui ont été écrits par Clémence Tonnerre, faut pas l'oublier.
Voilà, c'était une rediffusion d'une interview que nous avons pu mener cet été avec Lucien Gouron, un hommage que nous souhaitions faire sur cette antenne puisque Lucien nous a quittés cette semaine. Il laisse derrière lui alors des tonnes de souvenirs et d'histoires pour bon nombre de gens ici du pays de l'Orient. Il nous laisse aussi un dernier bouquin que je recommande à tous les gourmands. Ça s'appelle « Dessert de Bretagne, balade gourmand dans l'Ichouzerie » qui est paru en novembre dernier. Alors on y trouve les textes toujours aussi gourmands de Lucien Gouron, illustrés par le photographe Xavier Dubois. Une balade en l'Ichouzerie, que ça s'appelle, vous y trouverez la vraie recette du Queen Yaman de Douarnenez, celle du phare breton créé en 23 à Dol de Bretagne, ou encore celle du gâteau breton 100% sarrasin, imaginé ici du côté de l'Orient. Vous y apprendrez aussi comment sublimer les fraises de Plougastel, confire un melon petit gris de Rennes, réinventer l'incontournable Paris-Brest et le petit beurre nantais, redécouvrir la simplicité d'une crêpe de froment accompagné de figues confites au miel, le tout dans une crème. Lucien Gouron qui nous dit d'ailleurs, pour que la vie ait du sel, il nous faut aussi qu'elle soit sucrée. À méditer, une méditation que je vous propose de poursuivre en écoutant Lucien encore. Il aimait chanter et nous l'écoutons interpréter Jean-Marie Tantôt, une véritable chanson de Groix. Merci de votre écoute.
Je fais l'amour dans un joli quartier, oui, mais cela, je n'ai pas su profiter. Je fais l'amour, mais j'ai perdu mes pas, pour une belle qui ne m'aimait pas. Bonjour, bonjour la belle, que le bonheur soit chez vous, je voudrais savoir qui sera votre époux. Je voudrais savoir qui aura votre cœur, afin de m'éviter les peines et les douleurs. Calique, mon pauvre Calique, mon cœur n'est pas pour toi, je l'ai promis à d'autres amours que toi. Je l'ai promis à Jean-Marie tantôt. Retire-toi, Calique, retourne à Cherlifio. J'aurais su la belle, je ne t'aurais pas aimé, tant d'argent je n'aurais pas dépensé. Je n'aurais pas dépensé tant d'argent au cabaret avec tous tes parents. Si tu l'as dépensé, c'est que tu l'as bien voulu, combien de fois je te l'ai défendu. Combien de fois je te l'ai dit souvent, Calique, tu perds tes peines, Galant, tu perds ton temps. Si j'ai perdu mes peines, j'ai bien passé mon temps, oui j'ai passé d'agréables moments. Oui j'ai passé des agréables nuits, belle désirée, sur le bord de ton lit. Ton père, ta mère, la belle sont des avaricieux qui font partir l'amour de tes yeux. Le verre en main pour noyer mon chagrin, les larmes aux yeux, c'est pour te dire adieu.
Conocí siendo niño la alegría de la vuelta sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. Picassos, lindos picassos, caballitos de madera. Picassos, lindos picassos, caballitos de madera. En el aire polvoriento chispeaban las candelas y la noche azularía una sembrada de estrellas. Picassos, lindos picassos, caballitos de madera. Picassos, lindos picassos, caballitos de madera. Que cuestan una moneda, me compré lindo Picasso, caballitos de madera. Picasso, lindos Picasso, caballitos de madera. Picasso, lindos Picasso, caballitos de madera. Thank you. Diane da Huelva, sobre un corcel colorado, en una noche de fiesta. Pegasos, tiros, pegasos, caballitos de madera. 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 Pegasos, tiros, pegasos, caballitos de madera.